Nous sommes avec Philippe Delvy de la navigation sur le Lot. Les écluses dont on voit encore des traces à l'heure actuelle ont pour leur plus grande part été construites vers 1830-1840 sous Louis-Philippe. Est-ce qu'il y en avait quelques-unes auparavant, Philippe Delvy?
Alors, il y avait quelques écluses, en particulier entre Villeneuve-sur-Lot et Cahors, parce que c'est l'époque... Elles ont été construites donc à l'époque justement du canal du Midi. Donc c'est loin dans le temps, pour nous c'est Louis XIV. Et c'est l'époque également, à ce moment-là, où le roi et Colbert en particulier veut dynamiser le commerce intérieur du royaume. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là que sont construites ces premières écluses. Mais elles sont très imparfaites et de toute façon au-dessus de Cahors, il n'y a rien du tout.
Hein. Alors là, est-ce qu'il y avait quand même des moulins sur le bord du Lot, sur le Lot et des digues? Alors... Les bateaux faisaient comment?
Eh bien, quand je dis il n'y a rien du tout, il n'y avait rien du tout au sens moderne du terme, mais il y avait ce qu'on appelait des passeliers. Alors, le passelier, c'est quoi? Ben, je vais employer une image très, très parlante, j'espère, du moins. Ben, c'est un toboggan qui est ouvert dans une digue. C'est-à-dire que c'est un trou par lequel va s'engouffrer l'eau et en même temps le bateau pour descendre et pour monter.
L'eau coule très fort, là.
Donc, l'eau coule très fort, il y a un très fort courant. Hein. Et le passelier, donc, c'est une technique très fruste, mais c'est ça qu'il y a sur le Lot, donc au-dessus de Cahors et pratiquement jusqu'à Entraigues. Donc c'est très dangereux, mais en même temps ça permet quand même de faire remonter le niveau des plans d'eau, et donc ça permet de remonter très haut justement la navigation. Donc tous ces passelis seront modifiés et supprimés dans les années 1840-1860. Donc c'est vrai, il y a très peu de temps, même c'est presque concomitant à l'arrivée du chemin de fer, cette amélioration du Lot. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été totalement terminée, elle n'a jamais été totalement menée à bien, ce qui explique la défaveur rapide dont a souffert la rivière.
Est-ce que ces installations pourraient servir encore pour une navigation, même d'intérêt très local ou...
Alors, ces installations, elles servent d'abord souvent de base à des microcentrales électriques. Il y a de multiples exemples, y compris dans le coin. Le moulin du Strac avait été un temps converti en microcentrale. Bon, ici, on a l'exemple du barrage de Fumel, on a l'exemple du barrage de Touzac, on a l'exemple du barrage du Fossat. Hein, donc, toutes ces installations ont été reconverties en microcentrales. Alors, quant à servir à la navigation, ça, c'est un autre problème, parce que, d'abord, ça coûte très cher à entretenir. Ensuite, il n'y a aucune structure qui soit prévue actuellement pour recevoir ce genre de choses. Alors la navigation, elle existe pour la plaisance, évidemment, les barques des pêcheurs, mais il y a des bases nautiques donc, tout au long du Lot, et je pense en particulier à celle du Temple, qui utilise une retenue considérable, celle créée par le barrage de Castelmoron. Hein. Donc les écluses anciennes type remises en état, ça me paraît difficile, même si en son temps, le président Pompidou en avait fait restaurer une donc, au-dessus de Cajarc. Donc il ne faut pas s'imaginer que la navigation, ne serait-ce que parce qu'il y a des microcentrales et donc qu'il y a ces gros barrages de retenue, va redémarrer. Non, ça me paraît tout à fait utopique.
Hein. Oui. Revenons quelques dizaines ou même quelques siècles en arrière, il y avait des matelots, des marins, je ne sais pas trop comment on les appelle, un peu partout, donc tout le long du Lot. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là?
Alors ces gens-là, c'est eux qui effectivement faisaient marcher les bateaux, sinon les bateaux ils seraient immobiles évidemment. Ben, c'est tout un peuple donc de mariniers, de bateliers, très divers, hein, avec diverses strates, avec en particulier d'abord les maîtres de bateaux. C'était eux qui étaient l'aristocratie de la profession.
C'était les propriétaires, hein.
Propriétaires de leurs bateaux, oui. Aisance petite ou moyenne, mais les maîtres de bateaux n'arrivent pas à percer le plafond, je dirais, de la renommée. C'est-à-dire que pour arriver à une aisance tout à fait confortable, ils abandonnent leur métier et donc ils font du commerce à ce moment-là. Il ne faut pas imaginer donc, des maîtres de bateaux qui soient extraordinairement riches. Hein, ce n'est pas ça. Donc au-dessous d'eux, il y a ce qu'on appelle les patrons, les pilotes ou les gouverneurs, des patrons de bateaux. Ce sont des gens qui ont la science de la rivière, comme les maîtres de bateaux, mais qui n'ont pas assez de moyens, je dirais, pour avoir leurs embarcations propres. Donc ils sont engagés pour un voyage, pour deux voyages, pour une saison, pour descendre justement de la marchandise ou pour remonter de la marchandise donc depuis Bordeaux. Et tout à fait en bas, il y a les matelots, donc c'est la strate la plus basse de la société batelière. Et donc ceux-là, ce sont souvent des gens très modestes, très pauvres même, hein, donc on a trouvé des inventaires après décès où il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Et ils se différencient assez peu de ces journaliers agricoles, donc de ces domestiques agricoles qui s'engageaient pour une saison ou pour un travail donné, donc les vendages, la moisson, donc gens qui les entouraient, qui entouraient véritablement complètement la rivière.
Est-ce que ces gens-là savaient nager?
Eh bien, de manière assez curieuse, il y a beaucoup de matelots qui se noient. Et justement, la science de la natation, ça ne semble pas être très répandue. Ça, c'est une constatation qu'on fait très souvent quand on étudie cette période-là. Ça se marque, hélas, je dirais, au moment où des naufrages débarquent, où il y a des dizaines, voire même parfois plus d'une centaine de personnes qui justement, meurent parce que le bac a coulé au milieu du Lot et qu'elles sont incapables, donc, de revenir sur la rive à Sainte-Livrade. En particulier, il y a eu plusieurs naufrages qui ont fait mourir des dizaines de personnes. Donc,
juste en traversant le Lot.
Donc juste en traversant le Lot, il y a des bacs parce qu'effectivement, il y a pratiquement pas de pont. Hein. Il y a que le pont de Villeneuve-sur-Lot et puis les ponts de Cahors.
Est-ce qu'il y a encore des familles de mariniers dans lesquelles le souvenir de cette époque, de l'époque de la navigation sur le Lot, se soit conservé?
Alors, c'est un peu la mémoire collective là qu'il faudrait solliciter. Alors oui, on a le souvenir justement de ces bateaux, mais c'est très flou hein, parce qu'il faut voir que la navigation s'est arrêtée en 1927, donc ça fait déjà
1927 officiellement, mais elle était déjà arrêtée.
Officiellement 1927, mais enfin, on peut dire qu'à partir des années 1880-1900. Elle est déjà très affaiblie avec la guerre de 14. Bon, ça sera, je dirais, la fin, quoi. Sauf peut-être nous qui sommes en Basse-Vallée, donc elle était plus active à partir de Villeneuve-sur-Lot. Mais enfin, donc, c'est dire que la mémoire collective, elle est souvent très fautive et très lointaine. Alors oui, il y a des souvenirs, des traditions qui se transmettent, mais je crois qu'il faudrait justement les collecter rapidement parce que ça risque justement de se perdre tout à fait vite.
Oui, autrement, les sources de celui qui fait une recherche là-dessus, qui essaye de savoir ce qui se passait, comment ça se passait, quelles sont ces sources?
Alors, ces sources, elles sont tout à fait multiples. Bon, moi, je suis un historien, et donc c'est un peu mon métier, alors je ne vais pas vous assommer avec ça. Alors, sources multiples, mais qu'est-ce qu'on a? On a des documents d'abord qui sont conservés dans les différents dépôts d'archives, donc tout au long de la vallée, y compris d'ailleurs à Bordeaux, puisque c'est là qu'atterrissaient, je dirais, les bateaux.
Oui, par exemple de ces documents.
Alors, exemple de ces documents, alors j'ai parlé tout à l'heure des naufrages, alors c'est un peu triste, mais c'est plein d'enseignements parce que justement quand les bateaux faisaient naufrage, il y avait un inventaire de la cargaison. Donc ça permet de savoir d'abord qu'est-ce qu'il y avait à bord. Ça permet, s'il y a des gens qui sont noyés, de savoir de quoi était composé l'équipage, quels hommes, d'où est-ce qu'ils venaient, s'ils étaient jeunes ou vieux, où est-ce qu'ils habitaient. Donc il y a ça, par exemple, des déclarations de naufrage. Il y a également donc tous les actes administratifs qui concernent la rivière. Souvent, ça fait de très belles affiches. Il y a également de la correspondance commerciale. À Bordeaux, on en trouve, je dirais, hélas, assez peu, mais on peut avoir la chance de tomber justement sur des registres qui n'étaient pas connus. Et là, c'est ainsi que, par exemple, ce matin, donc j'ai vu des registres jusqu'alors peu connus chez une personne privée de Libos, donc qui m'avait contacté. Et donc, il s'agit de livres journaux. Donc, c'est tout à fait intéressant par les informations que ça peut amener au niveau des trafics, au niveau également de la clientèle. J'ai parcouru ça rapidement. Eh bien, il y avait des clients jusqu'à Potsdam, jusqu'à Berlin, donc en Allemagne, en Prusse, dans le nord de l'Europe et puis également aux Amériques. Donc voilà le type de documents.
Le Lot était finalement notre relation avec l'extérieur.
Voilà, alors c'est par le Lot que pénétrait ce qu'on appelle, moi je trouve que l'expression est très belle, le souffle atlantique, donc le souffle venu de Bordeaux. Et effectivement, donc il y avait, je ne dirais pas une ouverture d'esprit, mais en tout cas une ouverture économique tout à fait considérable et donc une dimension internationale en tout cas que pouvait avoir la vallée du Lot et qu'elle est souvent loin d'avoir aujourd'hui. Hein. Donc pour le 18e siècle, le 19e siècle, c'est moins net, hein, c'est moins net puisque donc c'est essentiellement donc des produits qui sont destinés aux populations riveraines de la vallée.